Déclaration d'Aigoual. La forêt du massif de l'Aigoual est une forêt dans les nuages, qui par beau temps regarde la mer ou l'océan, et par temps brumeux, ceux qui s'y aventurent. Comme les feux d'artifice du 14 juillet, que l'on voit par dizaines depuis là-haut, les déclarations que vous allez entendre témoignent, comme une fête, des liens différents et pétillants que des hommes, des femmes et des enfants nourrissent pour cette forêt. Aventurons-nous à déclarer la forêt d'Aigoual comme on pourrait le faire d'un nouveau-né, puisqu'elle est très jeune, autour de 120 ans, et qu'elle a été baptisée forêt d'exception il y a peu. Au cœur du parc national des Cévennes qui veille sur elle, nous allons partager avec vous son histoire exemplaire et un état de ses lieux sylvestres. Nous verrons la façon dont elle est appréciée du public, étudiée aussi, notamment par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et enfin entretenue. C'est l'Office national des forêts qui s'en charge en grande partie. Nous allons entendre des paroles de contemplation vibrantes, s'incarnant parfois en actes artistiques, comme pour les balcons de l'Aigoual, ce parcours d'art dans le paysage. Seront évoquées aussi des visions d'avenir face aux défis climatiques. Je suis Clémentine Magiera et je vis en lisière admirative de cette forêt. J'ai recueilli à votre intention pour la filature du Mazel, tiers-lieu culturel en vallée de Valerogue, commanditaire de ce projet, les témoignages dont vous allez écouter des extraits. Ces déclarations d'Aigoual se ramifient en plusieurs branches. Déclaration de naissance et d'alliance, déclaration de panacée publique, déclaration au martelloscope, déclaration de revenus des revenants, déclaration de changement de domicile vivant. Et enfin, déclaration d'art et d'amour. Déclarons ensemble la forêt ouverte, ouverte aux expériences, aux connaissances et aux rêveries. Branche 6, déclaration d'art et d'amour.
Ce que j'aime, c'est cette histoire de reboisement, cette histoire humaine absolument incroyable. Je trouve qu'on a la chance, vraiment, de vivre dans un endroit comme ça, qui symbolise la renaissance, le renouveau, la vie, quoi.
La forêt de l'Aigoual, bah déjà, j'y vis. Enfin, quand on vit ici, on est en milieu de la forêt. On vit dans la forêt, dans un sens. On a nos maisons, mais elles sont au milieu de la forêt. Du coup, j'ai toujours vécu dedans. Toujours baladé, toujours... C'est à deux pas de chez moi, quoi. Littéralement. Il y a une proximité où en fait je suis tout le temps dedans. Quand on veut représenter la région, pour nous c'est la montagne et la forêt qui va venir avec la rivière aussi. Mais c'est les deux choses qui vont venir. On a fait un hymne de Valrogue en réponse à l'hymne québécois parce qu'on avait des correspondants québécois et on leur avait envoyé. Et une des choses qu'on citait le plus c'était la forêt et les arbres. Comment ils étaient beaux et comment ils étaient grands. À Valrogue on peut voir sur les escaliers qui descendent au grand parc une grande mosaïque. Et dessus, on voit tous les arbres. Et c'est nous qui l'avons fait, parce que c'est nos imaginaires et c'est nos petites têtes qui ont dessiné les petits dessins. C'est une histoire qu'on apprend dès qu'on est enfant. Ici, la nature, elle n'a pas toujours été là. Il y a un moment où elle a été enlevée. Les arbres, on les a enlevés et on a dû les replanter. Et c'est une histoire dont les gens ici sont conscients et un peu fiers, justement, d'avoir replanté tout ça. Et qu'on apprend dès qu'on est petit. Il y a un imaginaire qui se forme un peu. Et puis même à l'école, on y va. On va dans la forêt tous les jours. Une fois par an, on avait un trimestre, je crois, de sport qui était consacré à faire des cabanes dans la forêt. On descendait par les 4000 marches de l'Aigoual, donc on passait à travers de la forêt. On prenait des bogues. On se les prenait dans la main, ça faisait mal, mais c'est quelque chose qui est toujours là. Sans être dans un esprit très humain où c'est chez nous et on colonise, mais c'est chez nous où en fait on évolue dedans. Et ça fait partie de nous, ce côté où on a de l'espace pour crier, et puis on a l'espace aussi pour être, pour se taire et écouter les feuilles, tous ces arbres. Et toute cette montagne qui monte, et qu'on peut se balader dedans. Après, moi, j'en suis partie, du coup, parce que maintenant, je suis à la ville. Mais je suis un peu devenue un adulte. Mais quand on est enfant, j'imagine que c'est ça qui fait qu'on a plus conscience des choses, qu'on laisse... Quand on part, quand on est adolescent, qu'on est jeune adulte, et qu'après, quand on revient ici, ça fait toujours du bien. Et c'est toujours le moment où, quand on voit la nature, qu'on est chez nous, en fait. Le moment où il y a juste le silence des arbres et le vent qui passe dedans. Ça fait du bien.
Je dirais que quand j'étais jeune, et j'avais une vingtaine d'années, je venais justement à ces fameuses places de Bram. J'habitais vers Ganges et je remontais avec ma bagnole jusqu'à ces places de Bram. Et j'avais tous les jeunes qui descendaient en boîte de nuit à Montpellier de mon âge. Et moi, je montais à l'Aigoual passer la nuit. C'était une manière de m'enrichir, entre guillemets. Je sais pas comment l'exprimer. Peut-être j'étais un peu à contre-courant tout le temps, un peu toute ma vie. Je sais pas, ou un peu en marge, je sais pas comment l'exprimer. Comme si ça me permettait de me construire, à affronter les aléas de la vie. Certains. J'aurais pas été paysan, j'aurais été forestier, dans tous les cas. C'était soit l'un, soit l'autre. J'ai commencé à moitié les deux, quoi. À un moment donné, avec un garde qui aimait beaucoup la pêche à la truite, j'ai bossé à débusquer, donc sortir du bois coupé ou du bois mort des lits de rivière pour organiser des frayères pour les truites pour qu'elles puissent se reproduire de manière efficace. Et ce fameux garde, il avait une petite spécificité, il habitait dans une maison mise à disposition du domaine de l'ONF, voilà. Et il y avait une place de Bram. Et j'ai des souvenirs sur cette place de Bram qui était juste à côté de sa maison. Sa femme jouait du piano. Et j'ai souvenir d'une fois, un automne un peu chaud là, où elle jouait du piano, cette dame. Et moi j'étais sur ma place de Bram à quelques centaines de mètres de là, en train d'attendre, de voir les biches devant et d'entendre le Bram du cerf. Et avec une musique classique en piano, c'est un souvenir gravé. Gravé, quoi. J'en ai la chair de poule, quoi. Rien que d'y penser, ça m'émeut. L'ensemble, le mélange tellement contradictoire du sauvage, du brame et ce piano qui au milieu des bois, quoi, complètement insolite, dans une maison certes, mais là, de la vraie musique en live au milieu des bois.
L'arbre à musique, dès qu'il y a du vent, enfin ses feuilles, c'est un peu comme des grêlons, et dès qu'il y a du vent, ils se mettent à bouger et ça fait de la musique.
Ils sont pas pareils que les autres. Ils ont des aiguilles. Et en fait, j'aime bien parce que l'hiver, ils changent pas de couleur. Tu vois, comme les pommiers, les poiriers, plein d'autres arbres, eux, ils changent de couleur. Et pas le sapin, le pin... le pain sylvestre et tout et tout. En fait c'est, j'adore les sapins parce que t'en vois énormément. T'en vois tout le temps dans la forêt. En fait, ils sont tellement grands que on dirait que t'es une riquille plume quand tu les vois. Moi, les arbres que je vois, par exemple, ils touchent le ciel.
Il y a deux écoles, il y a ceux qui n'aiment pas la forêt parce qu'ils aiment bien les grandes étendues, les milieux ouverts, les vues lointaines. Et moi, c'est pas mon cas, moi je suis dans l'autre école qui aime bien les milieux un peu confinés, j'aime bien ces atmosphères humides, sombres, me sentir tout petit par rapport à en dessous de ces grands arbres, sentir la fraîcheur de l'humidité, tous les petits détails aussi, je trouve ça c'est quelque chose qui j'aime bien, c'est En forêt, c'est pas un milieu immobile, il y a toujours quelque chose qui bouge, une feuille qui tombe, un insecte qui se déplace par-ci, par-là, un truc qui tremble de l'autre côté, un petit bruit. Et quand on prend le temps de regarder la forêt, on voit tous ces détails qu'on ne voit pas si on passe un peu vite comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine un peu.
Moi, ce que j'aime bien comme ambiance en forêt, en fait, c'est dès qu'il y a de la brume, en fait, un peu, dès qu'il y a des choses... un peu caché, enfin qui masque en tout cas les détails, un petit peu des branchages qui rendent le paysage un peu plus épuré. Et si on parle juste des arbres, même ailleurs dans la nature, j'aime bien les arbres, vraiment la silhouette d'un arbre, la façon dont les branches vraiment se sont appropriées l'espace Et ben, j'aime bien quand il y a par-dessus, ouais, par exemple, un petit peu de brume, quelque chose qui fait que, ouais, que ça masque, ça épure un peu l'univers. C'est là où c'est le plus, y a le plus de nuages, de temps un peu compliqué. Et en même temps, c'est là où on peut avoir les forêts où la vue peut porter à certains moments, en tout cas. Mais des fois, ça va porter, et puis d'autres fois, ça se referme. Et puis, c'est ça qui fait la diversité aussi. Les ambiances, et même si on est dans un même lieu, quoi, c'est ça qui est rigolo, quoi, c'est que dans un même lieu, on peut avoir des sensations complètement différentes d'un jour à l'autre, quoi. Enfin, j'aime bien que les photos soient assez simples, quoi, justement, assez épurées, qu'il n'y ait pas trop de choses qui perturbent la vue de celui qui regarde. Enfin, j'essaye en tout cas. Et donc du coup, bah, ça aide bien des fois, ouais. Ça aide bien quand il y a de la brume ou quoi, on peut avoir juste un tronc ou un arbre avec sa silhouette, ses branches, etc. Et quasiment sur un fond blanc, par exemple, en hiver, on peut avoir ça. Parce que sinon, bah, dans la forêt, juste pour parler de la forêt dans laquelle on se trouve là, on a une forêt avec plein d'arbres de différentes tailles, différents diamètres, différentes hauteurs, pas mal de branches partout. Là, je serais incapable de faire une photo. Enfin voilà, c'est pas typiquement ici, je ferais pas de photo, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des choses qui soient masquées. Il y a trop de détails. Des peuplements de hêtres l'hiver, avec vraiment où on voit les troncs hyper verticaux, assez sombres. Et ce contraste-là avec la neige, alors soit la neige qu'il y a au sol, et puis des fois quand on est, quand il y a vraiment un vent dominant, il va y avoir vraiment une ligne de neige d'un côté des troncs. Et ça, c'est super graphique. Et donc là, il peut y avoir des trucs sympas à photographier sur l'ensemble de la forêt. C'est pas facile d'ailleurs, je trouve, à photographier la forêt. C'est pas parce qu'il fait souvent sombre, donc déjà. Alors soit il fait sombre, soit il y a des contrastes très forts entre la lumière, enfin des zones éclairées et des zones à l'ombre. Et donc déjà ça c'est pas évident à gérer, et puis voilà, il y a souvent cette profusion de détails qui fait que c'est pas simple, quoi. Après on peut en jouer des choses qui cachent, etc., comme vous avez, je sais pas, pour photographier des animaux ou quoi. Moi j'aime bien quand je photographie des animaux qu'ils soient dans un cadre, enfin qu'on ait une idée du décor autour ou de l'ambiance dans laquelle ils se trouvent.
Voir tout le village blanc, plus voir trop les branches d'arbres. C'est tout bizarre et c'est très beau.
L'Aigoual, pour moi, est vraiment devenu un endroit mythique presque. À la fois parce qu'il y a des plaines désertiques comme celle du sommet, hein, c'est une petite plaine désertique, mais également parce que la forêt en hiver est très riche, notamment lorsqu'il y a du givre, avec des couleurs très particulières, des formes spectaculaires qui se forment sur les arbres, hein, aussi bien sur les faillards que sur les conifères. Donc c'est très très beau, très poétique, et on a l'impression d'être dans les pays nordiques, un peu isolés, seuls au monde. On n'a pas du tout l'impression d'être à 60 km de Montpellier. Donc cet aspect-là hivernal est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Lorsqu'il y a le lever de soleil aussi derrière une hêtraie et qu'on voit le givre scintiller sous l'effet du soleil, c'est absolument somptueux, hein. On n'a pas ça dans toutes les forêts françaises.
En 1990, j'ai cherché à m'installer quelque part et j'ai rencontré donc cette région de l'Aigoual qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a ramené à une partie de mon enfance où mes parents avaient une maison dans les Vosges. Et en fait, cette forêt de l'Aigoual m'a ramené aux Vosges par rapport aux essences d'arbres, certainement, et aussi au côté un peu vallonné, quoi. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais inconsciemment, c'est ce qui m'a fait choisir mon lieu de vie. Et voilà, et donc ça fait 30 ans que j'habite ici, même plus que ça, 35 ans, je pense. Et du coup, voilà, marcher la forêt, je l'ai fait. Et je l'ai fait régulièrement, je le fais toujours, parce que marcher la forêt, c'est aussi la rencontrer. Moi, je marche beaucoup les yeux grands ouverts, un peu la tête en l'air, parce que je cherche toujours des choses à voir, en fait, que la forêt révèle si on y met de l'attention. C'est des formes, il y a des arbres là qui sont absolument incroyables, qui ont des formes d'animaux, voilà. Et puis suivant les saisons aussi, hein, les formes, on les voit ou on les voit moins. Avec les feuilles, sans les feuilles. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans ma démarche. Et aussi par rapport à mon travail d'artiste, quoi, voilà. Une forêt, l'Aigoual, mais une forêt, c'est hyper inspirant. Et du coup, cette forêt, elle m'a tellement inspirée qu'un jour, elle, elle m'a inspiré un projet artistique. Et donc moi, j'organise des projets dans l'espace naturel. Et cet espace naturel voilà, m'a inspiré un parcours que j'ai créé en 2008, qui s'appelle les Balcons de l'Aigual, avec des installations Land Art monumentales. Pour moi, c'est le lieu. C'est le lieu à la fois qui révèle ses œuvres, parce qu'elles sont mises dans des endroits choisis, parce que cette nature, elle résonne avec une inspiration artistique, et un artiste s'en inspire aussi. Et aussi, ces œuvres ponctuées sur un parcours révèlent ce qui se passe entre les œuvres, c'est-à-dire révèlent justement des œuvres que la nature nous offre, mais qu'on n'aurait pas forcément vues. Et c'est ce côté magique qui m'a beaucoup... inspiré et apporté aussi. Et puis après, toute cette relation avec les artistes du Land Art, qui eux sont des gens qui sont très très aiguisés dans cette perception de ces choses naturelles, qui sont très très inspirés et qui se révèlent dans leurs œuvres, parce que la nature leur donne des choses qui font que ça alimente et ça crée l'œuvre, quoi, voilà. Depuis que je suis arrivée ici il y a 30 ans, je me suis toujours dit, un jour je fais un truc dans cette forêt. Et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que pour moi c'était une évidence. Voilà. C'était une évidence qu'il y avait. Que ce dialogue était artistique, que je ressentais, hein, sans pouvoir forcément moi l'utiliser dans ma partie artistique, mais que je ressentais en tant qu'être vivant et de passage, voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment un lieu incroyable. On s'y perd, mais à la fin on s'y perd jamais. Même si on est dans la forêt, à un moment donné, on arrive toujours à un point où on voit au loin. Et ce loin nous donne une référence de là où on est. Enfin, moi, j'aime beaucoup m'y perdre. Voilà. Après, effectivement, il y a les moments où il y a de la neige. Et donc, les choses sont pas... Que ce soit au niveau de la perception du bruit, la perception du froid, de l'ambiance et de la couleur. Ça change tout, quoi. Mais d'ailleurs, on perd ses repères. Hein. On y va au printemps, à l'automne. Et en hiver, on peut passer par des endroits, peut-être qu'on est passé par les mêmes, mais on ne les reconnaîtra pas, parce que, en fait, elles se transforment continuellement. Donc c'est une source d'inspiration sans fond, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Tout le temps, tu y vas et tu te dis... Pourtant, on a pu dire, je vais y aller. Tiens, je vais aller faire une balade, mais... Bon, j'étais déjà là, bon, allez, je vais y aller, parce que c'est pas loin, que j'ai juste une après-midi. En fait, je l'ai déjà fait, mais c'est chaque fois une nouvelle aventure. Une nouvelle promenade, une nouvelle rencontre, c'est jamais, jamais la même chose. Donc c'est incroyablement riche, quoi, voilà, et ressourçant, inspirant, et puis on y va avec son corps, quoi. Et pour moi, la marche, moi je marche très lentement, j'aime cette lenteur, quoi. Parce que ça, cette nature, pour moi, quelque part, nous amène cette lenteur, qui nous permet aussi de décrocher d'une vie souvent, et de plus en plus d'ailleurs, qui est dans un rythme qui correspond plus à la vie, quoi. Enfin, c'est juste un rythme imposé par une société qui va de plus en plus vite. Donc cette lenteur dans la forêt, c'est juste, on a l'impression de poser des choses. Et puis quelque part, on se retrouve, on redevient entier, quoi, voilà. Parce que cette lenteur, elle nous permet de tout on respire plus lentement, on marche lentement. Enfin, moi, en tous les cas, je suis très au ralenti. Parce qu'aussi, je prends ce temps d'observation. Et c'est une belle aventure aussi à faire vivre à d'autres. Ce temps-là, d'observation et de lenteur, ça te met hors du monde, quoi. T'es dans une autre dimension. Sur une autre planète, là-haut. Bah, t'es plus proche des étoiles aussi. Après, il y a la nuit aussi, hein, avec ce ciel étoilé qui est incroyable. C'est à l'Aigual, c'est dingue, quoi. C'est une histoire sans fin. Chaque fois que tu y vas, tu écris quelque chose de nouveau. Bon, moi, je pense que je pourrais y vivre dans une cabane. Bon, un peu confortable quand même. Je pense qu'il faudrait qu'on aspire à ce côté apaisant. Faut décroître, quoi. Que ce soit matériellement ou comme je dis, des rythmes et des... Voilà, et, elle nous apporte cette notion de décroissance de la vie. Ben merci, quoi, parce que qu'on y réfléchisse sérieusement. Il faut se dépouiller puis aller à l'essentiel. Et l'essentiel, on le trouve dans la nature. Et l'Aigual, elle fait partie de cet essentiel pour moi. Ça amène dans sa vie aussi une autre manière de voir les choses, un apaisement, une manière de vivre la société différemment et justement de plus la consommer, quoi. Parce qu'en fait, on a plus besoin de grand chose à partir du moment où on est dans la forêt. Parce qu'en fait, il y a avant la promenade à l'Aigoile et après la promenade à l'Aigoile. Quand je pars me balader dans la forêt, je suis encore dispersée dans plein de choses, que ce soit mon travail, des choses à assumer du quotidien. Et quand je reviens, tout s'est rassemblé en quelque chose d'unique à l'intérieur de moi et qui est basé sur effectivement la respiration, hein, beaucoup. Parce que j'ai pu respirer là-haut, c'est juste ce qui est essentiel. Tout le reste, en fait, c'est du brin, quoi. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est cette chose-là, se recentre. C'est un recentrage, quoi. Ça recentre sur quelque chose d'évident. Tu vois, c'est une sensation, c'est pas facile à expliquer, cette sensation, mais... Bon, après, moi, j'habite un peu plus bas dans la vallée, donc je monte en altitude, il y a aussi tout ça. Monter plus haut, redescendre plus bas. Moi, ça me met... Je suis fatiguée. C'est cette sensation où ça vide, mais ça remplit, quoi. Ça remplit d'un vide qui est harmonieux. Voilà.
Comment tu la vois, la forêt ?
Ben moi, je la vois comme un refuge et une source d'inspiration aussi. On peut peindre des tableaux sur la forêt, on peut dessiner, on peut faire des photos. Ben, la nature, en fait, c'est la vie, quoi.
On a écouté les feuilles parler, on a fait des sculptures avec la nature.
On invente et en fait, les feuilles qui sont en boule, et ben ça fait comme des roses.
Comme le tronc ne bouge pas, et des fois c'est vide, mais prend comme ça, et puis on se blottit avec. Et bien c'est comme s'il nous appelait, ou pour par exemple venir nous dire « Oh, demande-moi si c'est le plus beau arbre de la forêt de l'Aigoile. » C'est comme si les arbres étaient heureux de me voir, en fait, et que moi aussi je sois heureuse de les voir. C'est comme s'ils me parlaient ou que je ressentais ça. Il y a un arbre qui dit « Oh, aujourd'hui j'ai bien aimé ce garçon qui m'a dit que j'étais son préféré arbre. » Après, il va avoir le sapin qui va lui dire « Ah ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai trop envie qu'on m'en fasse un de câlin et qu'on me parle. »
Quand je vais dans la forêt, je m'appuie sur les arbres et je vois qu'ils bougent un peu.
Une fois, moi, j'étais collée contre un arbre et il y avait la sève qui m'a collé le dos et j'ai pas pu bouger. Et du coup, papa, il m'a aidée.
Pour me ressourcer, la pratique elle est assez simple, hein. Pieds nus, enlacer un arbre et essayer de capter sa force ou d'évacuer notre négativité. Ça fait partie de mes rituels, quand je vais pas bien, d'enlacer un arbre pieds nus pour justement que le courant électrique puisse revenir aux racines ou puisse monter des racines jusqu'à mon cerveau. Je sais pas dans quel sens ça marche. Tout est une question d'électricité.
Il y en a un d'arbre qui s'appelle le bouleau. Il y a du blanc avec du noir dessus. Il est joli, le tronc. Le tronc, il ressemble à un tigre.
Je pense à un petit arbre qui est à droite de la maison de Cap de Côte. C'est un épicéa, mais il a commencé à pousser il y a quelques années. Seulement, il y a énormément de brebis qui ont mangé les petites pousse au fur et à mesure qu'elle poussait, quand elle passe en juin et en septembre quand elle redescend. Et du coup, cet arbre, il a eu énormément de mal à pousser. Alors c'est très curieux parce que c'était un petit cône de 1 mètre de haut. Et maintenant qu'il a réussi à dépasser le mètre, il pousse comme un vrai épicéa parce que les brebis ne peuvent plus l'atteindre. Et il a une forme extrêmement curieuse. J'adore ce petit arbre. Il est conique, ça fait comme un sablier un peu. Deux cônes renversés l'un sur l'autre. Et puis aussi, il y a un petit arbre que mes petits-enfants, Arthur et Morgane, adorent, et moi aussi,
qui est tout seul. Quand on descend sur Mondagou, il y a beaucoup de virages. Et à un moment, il y a un petit arbre dans une épingle à cheveux qui est tout seul, un petit pin. Et avec mes petits-enfants, on l'appelle le petit solitaire parce qu'il est tout seul face aux tempêtes, face au vent. Et il est toujours là, il résiste. Et j'adore voir ce petit arbre quand j'arrive. Ah, il est toujours là, c'est bien.
Il y en a un qui est sur la route justement des Bas-de-Comte des Goâles, en contrebas, mais en fait qui a été habité par un pie noir. Et donc le pie noir a fait une œuvre sur le trou, c'est-à-dire qu'il a, il a ponctué le tronc de trous comme une ligne en fait de, une ligne de rond. Bon, ça c'est une œuvre qui a été créée par un animal, ben, un oiseau. Oui, le pie noir a fait une œuvre qui est assez majestueuse parce qu'elle monte sur le tronc et ça rend l'arbre encore plus grand et ça le rend même plus haut parce que ça lui donne une ligne qui le déploie en hauteur. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cet arbre par l'œuvre aussi.
Mon père était bûcheron, il est à la retraite maintenant. Donc j'ai grandi ici autour de la forêt de l'Aigoual, on allait le voir au bois des fois. J'ai l'odeur de la résine quand il rentre du travail, ça c'est des souvenirs d'enfance. Mais la conscience de la forêt elle m'est venue beaucoup plus tard en fait. Comme quoi il y a des choses... Ça peut être des traumas ou des choses très belles qui ressurgissent beaucoup, beaucoup plus tard. Moi, j'allais pas en forêt. Mon frère, il chassait, il pêchait. Moi, pas du tout. Cette sensibilité-là, elle est venue après, quand je suis partie à Bruxelles, j'ai eu mes enfants. Et le fait d'avoir mes enfants m'ont ramené un peu... à ça, je pense, parce que j'étais en ville avec eux et il y a une espèce de truc qui m'a dit « Mais non, mais je peux pas les élever là, c'est pas possible. » Et donc, sans réfléchir vraiment de où j'avais envie d'aller, je suis revenue là. Et depuis que je suis revenue, ça, c'est quelque chose qui grandit, en fait, cet amour, cette espèce de relation à l'arbre et à la forêt. C'était pas couru d'avance, quoi. C'est quelque chose qui se construit, j'y réfléchis beaucoup. Aussi. Et donc ça a pris de la place dans mon activité artistique. Et petit à petit, je regardais, mon regard c'est ouvert, oui. Mes sens se sont réveillés. Je dessine des arbres tout le temps. C'est quelque chose qui est là et c'est revenu très naturellement en fait. Et puis il n'y a pas de hasard dans la vie. Les balcons de l'Aigoual, donc le parcours de Landart, le projet se dessine, il y a un appel à projet, je dis « mais quand même, moi je suis du coin, le Landart je connais pas, mais bon, je vais répondre. » Donc 2017, je réponds à l'appel à projet, j'ai pas été sélectionnée, mais on me demande de faire les animations sur les balcons. Et le but de ces balcons, c'était d'ouvrir le regard des gens, des visiteurs sur la nature et sur la forêt. Et donc depuis, je m'intéresse au rapport même des gens avec la forêt. J'aurais envie que tout le monde se réveille comme moi, parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre ici, à avoir besoin de cet endroit, mais sans savoir pourquoi. C'est devenu un peu mon leitmotiv d'artiste. Ça y est, j'ai trouvé ma démarche. Voilà. En l'écrivant plusieurs fois, la réécrivant, ça y est. Je sais que c'est ça. Une démarche, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres, qu'est-ce que ça va leur apporter. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, dans ma démarche artistique, elle n'est pas seulement centrée sur moi-même, elle est centrée sur l'autre, et j'ai envie de réveiller les consciences en dessinant des arbres. Et puis après, au-delà, c'est au-delà de la forêt, en fait. Et donc, j'en suis à maintenant travailler aussi sur l'humain et son milieu de vie, son milieu de travail. Voilà, donc cette forêt-là m'a amené à quelque chose de beaucoup plus vaste et c'est pas fini. Même en pensée, je m'adresse pas à la forêt en fait. Il y a quelque chose que j'essaye de plus en plus de faire, c'est de ressentir ce lien avec la forêt. Ce lien physique, psychique, de faire partie d'un tout. Et donc pour moi... Alors pour d'autres, ça passera par les mots, mais pour moi, ça passe pas par les mots, en fait. C'est plus le ressenti. C'est pas des mots. C'est des moments où je vais prendre mon temps. Je vais m'asseoir, je vais passer ma main sur l'écorce d'un arbre, je vais m'arrêter devant une souche et je suis plus dans la contemplation. Selon le temps qu'il fait ou le moment de la journée, je ne vais pas regarder les mêmes choses. Voilà, quand il fait très soleil comme ça, il va y avoir une souche avec la mousse ou un arbre tordu. Ou, là, je vais être plus dans le détail ou même une écorce ou des choses au sol. Et puis, en fonction, par exemple, s'il y a du brouillard, là, je vais plus être dans l'observation de l'atmosphère. J'adore cette idée d'atmosphère dans la forêt. Elle change tout le temps. Et j'aime beaucoup les atmosphères qu'on pourrait classer d'inquiétantes, en fait. C'est des moments en fin de journée. Entre chien et loup, les moments où on va avoir l'activité des animaux qui commence, en fait. Et je trouve que là, il se passe des choses intéressantes. Alors, c'est peut-être pour ça, justement, que ce sont des moments qui m'interpellent le plus. Et donc, oui, effectivement, je vais parler beaucoup d'atmosphère ou de détails qui vont m'interpeller et m'inspirer. Donc, je prends beaucoup de photos de ces moments-là. J'ai toujours mon portable avec moi ou parfois mon appareil photo. Je prends un peu de la photo en noir et blanc, justement pour enlever toutes les notions de couleur, même si derrière, en dessinant, ça m'arrive d'en remettre. C'est pas la couleur qui va m'intéresser. Alors, si, le vert de la mousse m'interpelle, mais il est très dur à reproduire. Donc, je préfère faire la matière, en fait. Là, je vais être interpellée par la matière de la mousse ou les branches. Il y a des choses qui me... C'est les branches au sol, l'état de branches au sol. Il y a des arbres au sol qui ressemblent à des carcasses de baleines. On dirait vraiment des côtes comme ça. Et les branches, alors ça va être les mélèzes. C'est souvent d'ailleurs dans les forêts de résineux, hein, de conifères. Et ça fait des petites brindilles, comme des cheveux. Et si on le prend de près... On sent que c'est organique, mais on ne sait plus trop ce que c'est. Et ça, j'aime bien, cette espèce de flou-là, cette espèce de confusion qui peut se faire sur la matière qu'on va trouver. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse dans la forêt. En fait, moi, je ne cherche pas le dessin réaliste spécialement, et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la forme, la matière que je vais mettre, et l'ambiance, l'atmosphère qui sort du dessin, qui va provoquer une émotion. Et donc, les couleurs de la nature sont tellement belles que je trouve que c'est très compliqué à reproduire, en fait. Le vert de la mousse, il y a un mélange de jaune, de bleu, c'est je sais pas. Cette couleur est incroyable, en fait. Et puis, ces tapis de mousse partout, je trouve ça tellement beau. Ça fait référence au conte de fées. À la féerie, on s'attend à voir sortir des petits êtres de cet endroit, parce que ça doit être tellement bien pour vivre dedans, en fait.
Internet, on est piqué de langue. Écoute, quand je prends ma tablette, il y a toujours un Google, je ne sais pas qui me parle, présente des mots, je ne sais pas trop quoi, et c'est là que tu te sens piqué. Dans la forêt, tu n'es pas piqué. Dans la forêt, tu es libre. Libre de vivre. Tu as de tout, même tu peux manger dans la forêt. Tu as des fleurs qui sont comestibles. Le matin, la rosée, tu as de l'eau. Dans la forêt, si tu regardes le ciel, entre les arbres, tu as comme des éclairages. Ce n'est pas un éclairage, mais c'est des rayons que tu vois. Et une goutte d'eau te fait un prisme, enfin un arc-en-ciel. Le loup, on dit qu'on a peur du loup, mais attends. Le loup, il est sauvage. Mais attends, s'il n'a pas faim, il ne te mangera pas. Enfin, il ne mangera pas des agneaux. S'il t'en prendra un ou deux. Mais puis c'est pour ses petits. C'est ça, moi, les humains, il y a certains humains que je ne comprends pas. Ils n'ont pas la même façon de voir que moi. Moi, je suis plus terre à terre. C'est-à-dire, je suis plus dans les pâquerettes, je suis dans les pâquerettes, ouais. Mais c'est magnifique, la forêt, moi, pour moi, c'est une découverte. C'est le bruit des feuilles, la forêt, c'est un endroit magique. T'as tout, t'as des feuilles qui te frôlent dessus, ils te tombent sans que tu t'en aperçois. Plouf, ça tombe, tu reçois un truc. Enfin, moi, je trouve, les gens, ils voient pas le bonheur. Eh bien, moi, la nature, elle m'a jamais déçue. la nature. J'observe, je vois l'escargot, n'importe quoi. Tu te rends compte que tu as même des branches qui ressemblent à des animaux. Tu as des animaux qui ressemblent à des branches. Ah oui, je parlerai à un arbre parce que c'est vivant, c'est la sève, c'est notre sang. C'est, je dirais, soit magnifique, soit grand, soit majestueux. C'est un miracle de la vie, quoi. C'est l'arbre de vie.
J'adore être dans les arbres parce que j'adore ce qu'elle a dit dans les arbres. Pas dans les énormes, dans les petits. Je veux me raccrocher de l'arbre pour que je m'accroche et que je retombe. Et que chez moi, je grimpe aux arbres. Et aussi, on a fait une cabane et dedans, il y a une corde et je me balance avec la corde. Mais ils sont accrochés à l'arbre, du coup c'est dans la nature. Quand je me balance, je vois toute la nature et c'est trop beau.
La forêt de l'Aigoual, pour moi, c'est un lieu sacré, un lieu symbolique très puissant. Moi, je suis de plus en plus attiré par cette forêt que je découvre au fil des jours, puisque maintenant j'en suis encore plus proche. Je venais régulièrement marcher, j'amenais mes amis marcher été, automne, hiver, tout le temps. Cette forêt, bah, c'est le temps qui passe, c'est l'énergie de la terre qui circule, c'est des instants poétiques, des vues absolument magnifiques, des couleurs de ciel, du givre bien sûr sur les arbres l'hiver, les feuilles actuellement en automne dorées à souhait qui brillent de mille feux. C'est des sentiers extraordinaires où on peut se perdre dans des forêts qui changent tout le temps avec plein d'essences différentes. Les châtaigniers en bas, les hêtres vivants en moyenne altitude et puis les sapins, les pins parfois plus hauts. Et j'aime tous les étages de cette forêt. Je trouve qu'on est dans des univers très différents. D'ailleurs, quand je me balade maintenant, je pourchasse les chasseurs sur leur non-sentier. J'adore bartasser. Et quand j'organise une balade avec des amis, il y a toujours un passage en forêt où on se perd un petit peu et où on... Même, notamment, par exemple, dans la neige. J'adore marcher dans la neige. Quand il y a une bonne couche et que personne n'est encore passé, on se précipite pour aller marcher dans les forêts en dessous de l'Aigoual, faire des grands tours. En plus, je trouve qu'il y a des lieux, bien sûr l'Arboretum, il y a le Point Sublime, enfin, on a des vues extraordinaires à 360 degrés. Si on dort à l'Aigoual, on peut découvrir comme jamais l'ensemble des Alpes le matin au lever, c'est extraordinaire. Je souhaite à tout le monde de voir ça une fois dans sa vie. On voit aussi les Pyrénées parfois. C'est vraiment un lieu de ressourcement où on peut imaginer sa vie autrement, reprendre le rythme de la vie, être à l'écoute de soi, prendre le temps de regarder. J'ai la chance de connaître depuis pas mal de temps le Mont Aigoual et ses forêts grâce à mes amis météorologues, organisateur d'événements sur le site et j'avoue que je les remercie mille fois, ou les gardes du parc aussi, national, de l'ONF, etc., pour tout ce qu'ils nous ont appris, tout ce qu'ils nous ont transmis. C'est un peu dommage que les gardiens du temple, du vaisseau amiral, du météocite ne soient plus là en permanence, parce qu'ils formaient une équipe fantastique et faisait un travail extraordinaire. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris humainement à leur côté et je trouve qu'ils nous manquent maintenant, aujourd'hui. On les a revus cette année à l'Estival de l'Aigoual, mais c'est un lieu qui rassemble des êtres particuliers aussi, des hommes et des femmes particulières qui ont des chemins de vie un petit peu différents, qui sont attirés par les extrêmes du Mont Aigoual. Parce que la plupart des gens le savent, mais c'est quand même un lieu des extrêmes, avec les températures, les vents, on est confronté à des choses puissantes. J'espère chaque année, je prie pour qu'il y ait un peu de neige et qu'on puisse revoir ces paysages-là, quand le givre pend des sapins, des pins du sommet, c'est des paysages inoubliables, pleins de luminosité, ça éclaire nos vies. Une semaine, on marche dans le froid, la température ressentie atteint presque les moins 20, et la semaine d'après, on est encore dans la neige, mais on voit un limoncello sur la table d'orientation du sommet en t-shirt parce qu'il fait 15 degrés. Bon, ça c'est un peu le réchauffement climatique, mais c'est des moments appréciables. En gros, du Saint-Guiral au sommet de l'Aigoual, à Aire de Côte, mais les paysages changent tout le temps. C'est vrai qu'il y a des endroits... Moi, j'habite au Meussas, donc la montagne au-dessus, c'est le sentier de Montlouvier. On va jusqu'au lac des Pises. Et donc, il y a une forêt de hêtres absolument extraordinaire, d'une beauté. Il y a des moments où c'est difficile de se repérer, notamment à cette période-là, parce que le chemin est recouvert de feuilles mortes. Il faut avoir un bon œil, un bon sens de l'orientation. Le torrent est assez puissant. Malgré la fraîcheur, on a envie de se baigner. Parfois, on le fait. Ça fait du bien aussi, ça vivifie. Et au coupé du monde, à marcher et à respirer ce bonheur au printemps avec toutes les fleurs. À côté de chez moi, il y a un pont romain sur le ruisseau du Bavezon. Enfin, dit romain, hein. Voilà, il y a un rocher qui ressemble à un animal préhistorique, un éléphant. Et dans cette balade, je me vois en train de raconter qu'on dit que Hannibal et ses éléphants sont passés là et que le pont a tenu sous les éléphants. Et il y a toute la forêt autour de moi, bien sûr, là, c'est au mois de septembre et octobre. Cerfs n'ont pas arrêté de bramer. On a fait des balades, on était à 50 mètres, 100 mètres des cerfs qui bramaient comme des fadas au milieu des forêts. En plein après-midi, c'est même plus le soir, le matin, c'est tout le temps. Il paraît qu'il y en a 55 qui ont été recensés cette année dans le territoire du parc national qui bramait, hein, des cerfs. Pas entendu autant, mais j'en ai entendu beaucoup. C'est aussi un spectacle de puissance. Là, on pense animal totem, on voit les biches tellement délicates, fines, sensibles. On voit toute la diversité des êtres vivants, leurs énergies, la puissance, la douceur, la délicatesse, les champignons qui poussent partout, de toutes les formes, de toutes les couleurs. À être surpris, à découvrir, à apprendre, à ressentir. Voilà, il faut aller en forêt, il faut vivre la forêt de l'Aigoual. C'est l'une des forêts les plus extraordinaires que j'ai rencontrées. Et je suis très très heureux. Et je remercie je ne sais pas qui de m'offrir ces instants de bonheur dans le massif de l'Aigoual et dans sa forêt.
En fait, l'endroit sucré, c'est le chemin où je suis passée. Des fois, je les montre à mes copines quand elles viennent. J'aime me promener parce qu'il y a un chemin sucré.
Quelques derniers mots pour bruisser encore et encore avec la forêt d'Aigoual. Pour appeler encore et encore les aurores coiffant sa canopée et ses chemins secrets. Des rires dans la nuit. Les plus jeunes prennent les anciens par la main et les tirent sur le chemin des 4000 marches. Labyrinthe des passages et lune nouvelle, la montagne d'Aigoual est une termitière, ça s'affaire. Il y a des chants au jardin des ancêtres et toute l'ivresse de notre espèce. Le monde se fige enfin, tout en haut, dans la stupeur du soleil qui poigne. Notre silence long lui tient lieu de ciel un instant. C'était les sixième et dernière déclaration d'Aigoual, déclaration d'art et d'amour. Merci aux enfants des écoles publiques de Trèves, Camprieux, La Nuéjolle et à leurs enseignantes. Merci à Céline Pialot, artiste, à Lila Maréchal-Schneider, étudiante, habitante de l'Aigoual, à Vincent Cosse, paysan fromager, à Baptiste Algoët, responsable du pôle forêt et chasse au Parc national des Cévennes. Merci à Valère Marceaudon, ingénieur forestier à l'ONF et photographe naturaliste. À Éric Diot, ancien météorologue et artiste peintre. À Claire Schneider, artiste plasticienne. À Rebecca Clémenceau, accueillante au gîte d'étape de Cap de Côte. À Maryse Roux, retraitée à la résidence des Ormeaux à La Nuéjolle. Et à Paul-Marie Plédeau, artiste, organisateur d'événements et de séjours en montagne. Ces déclarations d'Aigoual, glanées d'octobre 2023 à juin 2025, sont une commande de la filature du Mazel, pôle d'innovation territoriale, soutenue par la DRAC Occitanie, le département du Gard, la communauté de communes Cosse-Aigoual-Cévennes Terre Solidaire et la fondation Carasso. En partenariat avec le studio Raw Power Records et Radio Larzac. Une création de Clémentine Magéra, conteuse et autrice illustratrice, avec le concours aérien des oiseaux de l'Aigoual. Pique noir, chouette de Tegmalm, chouette chevêche, mésange noir, citelle, troglodyte mignon, grimpereau des bois, pinson des arbres, roitelet huppé, rouge-gorge, qui illumine ce bosquet de podcasts. Un grand merci à la filature du Mazel et à Eliette Guine, sa directrice, à Nicolas Galtier de Radio Larzac, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de ces déclarations d'Aigoual. Puissent les muses de l'humus toujours accompagner nos pas sur les sentes sylvestres.